Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce souvenir des vétérans autochtones, un texte publié le 7 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Saviez-vous que le cri avait été utilisé comme langage codé durant la Seconde Guerre mondiale? Nos archives rappellent la contribution souvent oubliée des militaires autochtones lors des deux guerres mondiales. La participation autochtone au sein des troupes canadiennes est une réalité peu connue de l'ensemble de la population. On estime qu'environ 10 000 membres des Premières Nations, exemptés de la conscription, se sont portés volontaires pour combattre aux côtés des Canadiens. Au cours des différentes guerres menées par le Canada, des soldats autochtones ont servi comme tireurs d'élite et éclaireurs, mais aussi en tant que transmetteurs de codes. Au téléjournal Alberta du 14 juillet 2015, la journaliste Josée Saint-Onge revenait sur la contribution particulière des Cris de l'Alberta et de la Saskatchewan. Durant la Seconde Guerre mondiale, des soldats autochtones comme Charles Checker Tompkins communiquaient en Cris dans leurs messages radio à d'autres bases militaires. La langue crie étant très complexe à décoder, ils pouvaient transmettre de l'information confidentielle aux alliés sans craindre qu'elle soit interceptée par l'ennemi. Le code de guerre en crie n'a jamais été brisé et le héros de guerre Charles Checker Tompkins n'a révélé la nature de son rôle que quelques années avant sa mort en 2003. Au moment du reportage, la documentariste Alexandra Lazarowicz réalise un court-métrage pour illustrer le parcours de ce soldat originaire de Grouard, dans le nord de l'Alberta. Son documentaire Cree Code Talkers vise à faire voyager cette page d'histoire méconnue. Des souvenirs teintés d'amertume. Au printemps de 1997, le Musée des arts de Moose Jaw inaugurait une exposition commémorant les faits d'armes des Autochtones qui se sont battus outre-mer. Le journaliste Jean Sawyer recueillait à cette occasion quelques témoignages des vétérans autochtones. Des témoignages empreints d'un sentiment de solidarité et de fierté, mais aussi d'amertume. Son reportage, diffusé à l'émission Le Point du 28 mai 1997, dresse l'histoire de la participation des membres des Premières Nations lors des deux guerres mondiales, de la guerre de Corée et d'autres conflits armés. Même si les traités signés avec la couronne britannique stipulent que les Autochtones ne sont pas obligés de se battre pour les Blancs, plusieurs décident de s'enrôler pour aller défendre leur nouveau pays contre les Allemands, souligne le journaliste Jean Sawyer. Dans les tranchées, les soldats autochtones combattaient d'égal à égal avec les soldats blancs. Il n'y avait pas de discrimination. Nous avions les mêmes possibilités de promotion, souligne un vétéran autochtone, qui dénonce toutefois le manque de reconnaissance du gouvernement canadien par la suite. Car, à leur retour au Canada, les combattants des Premières Nations étaient renvoyés dans leurs réserves sans aucune forme de compensation. Les vétérans autochtones n'ont pas eu accès à tous les programmes offerts aux anciens combattants, tels que l'octroi de terres de la Couronne et des prêts à taux préférentiels. À moins de renoncer à leur statut d'Indien, ils ne pouvaient de fait acheter une terre hors de leurs réserves, ni la quitter sans permis. Depuis la fin de ces grands conflits, les anciens combattants des Premières Nations attendent des excuses du gouvernement fédéral pour les mauvais traitements qu'ils ont subis, conclut le journaliste dans ce reportage en 1997. Ce n'est qu'en 2003, soit près de 20 ans après le rapport sénatorial dénonçant leur situation, que les vétérans autochtones obtiendront des excuses publiques et des indemnisations du gouvernement du Canada. Des langues à préserver. C'est une statistique alarmante. Si aucune mesure n'est adoptée, seulement 3 langues autochtones sur 70 vont survivre au Canada. Une citation de l'animatrice Céline Galipeau. En 2019, le gouvernement canadien adopta la loi sur les langues autochtones. un outil pour préserver leur culture autochtone, mais aussi pour reconnaître son importance dans l'histoire canadienne, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que souligne la journaliste Madeleine Blais-Morin dans ce reportage au Téléjournal du 30 janvier 2019. La journaliste s'entretient avec le vétéran autochtone Louis Levy Oakes, qui a utilisé sa langue maternelle, le Mohawk, pour traduire des messages de l'armée américaine. En 2019, il reste moins de 2500 locuteurs de cette langue autochtone au pays. La fille de Louis Levy Oakes n'a d'ailleurs pas pu pratiquer la langue Mohawk, car elle était punie physiquement si elle la parlait en classe. La loi sur les langues autochtones vise à corriger les torts du passé, mais aussi à les faire connaître. Le député fédéral Mark Miller, interviewé dans ce reportage, a ainsi prononcé aux communes un premier discours en Mohawk, et il s'efforce de faire parvenir à nos oreilles des histoires comme celle de la famille Oakes. C'était « Ce souvenir des vétérans autochtones », un texte publié le 7 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Coupure dans le contrat d'intégration au travail, CIT, pourquoi la vision du gouvernement manque-t-elle de perspectives? Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, organisatrice communautaire au volet « Défense des droits », en collaboration avec Samira Fetzani, coordonnatrice en employabilité. En 2024, les personnes en situation de handicap demeurent largement sous-représentées sur le marché du travail. Plus le handicap est sévère, plus l'écart est frappant. Pourtant, près de la moitié de ces personnes pourraient être considérées aptes à travailler. Cela représente concrètement un potentiel inexploité de 741 280 travailleurs au Canada. Un fait troublant s'ajoute, près des trois quarts des personnes handicapées rapportent avoir fait face à des obstacles répétés en raison de leurs conditions. Résultat, l'accès au marché de l'emploi reste pour cette communauté un véritable parcours du combattant. Dans ce contexte, une des mesures d'inclusion les plus efficaces, le contrat d'intégration au travail, CIT, est aujourd'hui fragilisé par des coupures imposées par le gouvernement. Cet article vise à souligner le caractère arbitraire de cette décision sur une mesure dont les retombées économiques et sociales n'en font non pas une simple dépense, mais plutôt un investissement stratégique. Qu'est-ce que le CIT et à quoi sert-il? D'abord, explorons ce qu'est le CIT et quels sont ses objectifs. Pour favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, il est parfois nécessaire d'adapter les exigences de productivité, l'encadrement ou l'environnement de travail en fonction de leurs capacités et de leurs besoins. Le CIT est une mesure offerte par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui rembourse à l'employeur certains frais liés à ces ajustements, notamment l'aménagement des tâches. L'employeur reçoit une compensation financière pour couvrir le manque à gagner en productivité que ces aménagements pourraient occasionner. En somme, cette initiative permet de s'assurer que des limitations d'une personne n'affectent ni le rendement de l'entreprise, ni la rémunération du travailleur. Ce programme a largement fait ses preuves sur le marché de l'emploi québécois depuis sa mise en place, à tel point que certaines régions peinent à répondre à la demande, laissant des travailleurs sur des listes d'attente. Pourtant, alors que le milieu communautaire plaide pour une accessibilité accrue, que ce soit en augmentant le nombre de CIT disponibles ou en assouplissant les critères d'admissibilité, le ministère a pris tout le monde de court en réduisant les fonds alloués au programme. Résultat, le taux de remboursement salarial offert aux employeurs a été revu à la baisse, fragilisant une initiative déjà sous pression. Quelles sont les nouvelles mesures du gouvernement? Depuis quelques mois, les remboursements salariaux destinés à combler le manque de productivité ont été réduits de 5 %. Cette diminution touche à la fois le plafond maximal, qui passe de 85 à 80 % du salaire du travailleur, et, à l'exception des renouvellements, les demandes de remboursement en deçà de ce plafond. Par exemple, une demande visant à couvrir 50 % du salaire d'un employé ne sera désormais acceptée qu'à hauteur de 45 %, même si la demande originale reflétait le manque à gagner réel en termes de productivité. De plus, le gouvernement demande maintenant, lors d'un renouvellement, de réévaluer la pertinence des CIT dont le taux de remboursement salarial est inférieur à 25 % ou supérieur à 65 %. Cette nouvelle directive concerne les CIT en place depuis plus de 3 ans et demi. Il faut donc, dans les demandes existantes depuis plusieurs années, justifier la raison d'être de la mesure lorsque les taux de remboursement salariaux sont particulièrement bas ou particulièrement hauts. Ce que nous dénonçons dans ces mesures. Ces nouvelles directives ignorent les besoins réels des employés et dénaturent le principe même du CIT. Elles semblent refléter une vision erronée du gouvernement qui perçoit le CIT davantage comme une dépense financière que comme un investissement à moyen et long terme. Pourtant, les contrats d'inclusion au travail génèrent des retombées concrètes et mesurables, tant sur le plan social qu'économique, et leur impact dépasse largement le cadre des coûts immédiats. Commençons par les bénéfices sociaux. Le CIT permet à toutes les parties prenantes de contribuer à l'inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Pour permettre à un employé handicapé d'occuper un emploi régulier, l'employeur doit veiller à offrir un environnement inclusif et accessible, ce qui représente un véritable défi, même dans le cadre d'un CIT. De son côté, le travailleur doit faire face à une multitude d'obstacles, notamment en ce qui concerne le transport, l'aménagement de ses soins ou encore l'accessibilité universelle. Par ailleurs, le CIT permet au gouvernement de s'approcher de l'objectif du plein emploi tout en protégeant une population vulnérable de la pauvreté et de l'isolement. Il a également un impact significatif sur l'autonomie et la confiance des personnes concernées. Du point de vue économique, les retombées du CIT sont également considérables. Il permet d'abord de faire sortir de nombreuses personnes en situation de handicap des différents programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale du ministère. Ensuite, l'employeur et le travailleur, par l'entremise des taxes et des impôts, reversent des sommes au gouvernement. De plus, en devenant un membre actif de la société, le travailleur réinvestit ses gains dans l'économie en consommant, en cotisant au régime de rente du Québec, en investissant et bien plus encore. En fin de compte, le gouvernement récupère l'argent investi dans le CIT, créant ainsi un cercle vertueux d'inclusion et de retour sur investissement. Des orientations qui manquent de vision et de réflexion. L'analyse globale du marché de l'emploi permet de conclure que les récentes orientations du gouvernement provincial concernant le CIT manquent de vision et de réflexion. Ces questionnements soulèvent des enjeux plus larges en matière d'employabilité. Comment peut-on, d'une part, faire d'énormes compromis financiers et éthiques pour attirer des employeurs, notamment étrangers, tout en coupant simultanément dans une mesure comme le CIT, qui répond pourtant aux besoins d'employeurs et de travailleurs disponibles ici, au Québec? Nous invitons nos lecteurs à solliciter leur gouvernement sur ces pistes de réflexion. De son côté, l'équipe de défense des droits et d'employabilité de Mémo Québec continue de porter la voix des travailleurs en situation de handicap auprès des différentes instances, y compris du ministère. C'était « Coupure dans le contrat d'intégration au travail, CIT », Pourquoi la vision du gouvernement manque-t-elle de perspective? Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin et Samira Fetsani, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.
Armand Frappier inocule la production vaccinale au Québec. Un texte de Marc Tison, paru le 8 novembre 2025 dans La Presse. En 1938, Armand Frappier fonde l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal, le premier véritable centre de recherche médicale au Canada français. 5 ans plus tôt, il avait introduit en Amérique du Nord une souche vivante du vaccin antituberculeux BCG, malgré l'opposition des États-Unis. Quand le paquebot Carinthia s'est amarré au port de New York à la fin de décembre 1932, il transportait une substance honnie dans ce pays, une souche de vaccin vivant quoique atténué. Le bouillon de culture a voyagé par train jusqu'à Montréal dans les bagages d'Armand Frappier. Le jeune médecin québécois venait de terminer sa formation en bactériologie aux États-Unis. Il s'était rendu à l'Institut Pasteur, à Paris, justement parce que les sommités médicales américaines contestaient l'innocuité du vaccin antituberculeux français, BCG, vaccin bilier de Calmette et Guérin. Avec la souche qu'il introduisait, la recherche et la production vaccinale allaient prendre racine au Québec. Les origines du mal et du bien. Né en 1904 à Salaberry de Valleyfield, Armand Frappier avait 19 ans quand sa mère a contracté la tuberculose à l'âge de 40 ans en 1923. Lorsque le mal a été diagnostiqué, Armand a demandé au médecin s'il pouvait faire quelque chose de plus que de prescrire à sa mère de l'air pur et du repos. Il m'a dit « Mon jeune homme, il n'y a rien qu'un vaccin qui pourra venir à bout d'une maladie comme celle-là. » L'entend-on raconter dans le documentaire homonyme de Nicole Gravel produit par l'ONF. Sa mère est emportée par la tuberculose en 3 mois. Le dit jeune homme, qui rêvait jusqu'alors d'une carrière de chimiste, se destinera désormais à la médecine avec l'objectif de s'attaquer à la terrible maladie pulmonaire qui faisait alors plus de 3000 morts chaque année au Québec. Le vaccin de Calmette et Guérin. 2 ans avant la mort de sa mère, en 1921, les chercheurs français Albert Calmette et Camille Guérin, de l'Institut Pasteur, avaient administré pour la première fois un vaccin antituberculeux à un bébé. Après 600 autres inoculations réussies, ils ont pu lancer, en 1924, un programme de vaccination infantile à grande échelle. À l'automne de cette même année, Armand Frappier entre en médecine à l'Université de Montréal. Excellent violoniste, il finance ses études en se produisant le midi au magasin Dupuis-Frères avec un sextuor à cordes qui inclut aussi son frère Irénée. Dans les deux cas, les bonnes notes s'accumulent et il obtient son doctorat en médecine en 1930. Il entreprend aussitôt une licence en sciences visant une carrière en biochimie. Il apprend alors que le département de bactériologie de la faculté de médecine, à l'abandon, cherche désespérément un professeur. Le BCG au Québec. Le vaccin BCG n'était pas inconnu au Québec. À l'instigation du Conseil national de recherche du Canada, il avait commencé à être étudié en 1926 par le docteur Joseph-Albert Beaudoin, professeur d'hygiène à l'Université de Montréal. À partir d'une souche apportée au Canada par un délégué de l'Institut Pasteur, le vaccin était préparé par le docteur Arthur Bernier, professeur au département de bactériologie, dans un minuscule local situé dans l'édifice qu'occupait alors l'Université de Montréal, rue Saint-Denis. Mais le docteur Bernier est mort en 1928 et son successeur est tombé malade à son tour. Il mourra en 1932. Personne n'assurera ensuite l'enseignement de la bactériologie. La production du vaccin, un moment interrompu, sera maintenue difficilement par une assistante. C'est alors qu'Armand Frappier manifeste son intérêt. Avec l'appui du doyen de la faculté de médecine, le docteur Télesphore Parizeau, tout heureux de voir apparaître un volontaire de ce calibre, il obtient en 1931 une bourse de la Rockefeller Foundation pour étudier la bactériologie à l'Université de Rochester. Les opposants américains. Pendant 1 an et demi, Il fait des séjours dans des laboratoires de microbiologie réputés. J'avais devant moi des possibilités de travail, dont le contraste avec la misère et la pauvreté de l'Université de Montréal, d'où j'arrivais, m'a bouleversé, narre-t-il dans son autobiographie. C'est pourtant dans ce riche milieu qu'il rencontre les plus durs opposants au vaccin BCG, écrit-il. Lorsqu'il présente fièrement à ses collègues et professeurs les premiers résultats statistiques obtenus à l'Université de Montréal avec le vaccin antituberculeux, il affronte un barrage de critiques aussi virulentes que la maladie. Pour en avoir le cœur net sur l'efficacité du vaccin, il décide de remonter à la source du débat, à l'Institut Pasteur, chez Calmette et Guérin, eux-mêmes. Une visite à l'Institut Pasteur. La traversée transatlantique en paquebot à l'automne 1932 est aussi houleuse que coûteuse. Je résolus d'emprunter un peu d'argent, ce qui n'était pas facile à ce moment-là, relate-t-il. Un séjour de 15 jours avec son épouse, Thérèse, à la pension de famille de l'Institut Pasteur, leur coûte 1143 francs, 283 dollars canadiens, dont 7 francs, 1,73 dollars canadiens, pour deux bouteilles de vin blanc. La note détaillée a été conservée au fonds Armand Frappier de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Il observe la préparation méticuleuse du vaccin par le docteur Camille Guérin. Il dit sa messe, chuchotent ses collaborateurs. Nouveau départ. De retour au Québec au tournant de 1933, Frappier relance les cours de bactériologie à l'Université de Montréal. Après un nettoyage en profondeur du petit laboratoire et la stérilisation des instruments, il reprend à neuf la préparation du précieux vaccin avec la nouvelle souche, non sans opposition locale. Un professeur de l'Université McGill le traite de criminel. Ils deviendront néanmoins amis. Il s'entoure peu à peu d'étudiants passionnés et de spécialistes ayant des expertises variées. Armand Frappier est le premier à constituer autour de lui une véritable équipe de recherche, comptant non seulement des médecins, mais également des biochimistes, des pharmaciens et des vétérinaires, constatent Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Gingras, dans leur ouvrage « Histoire des sciences au Québec ». Je n'avais à leur proposer que du travail acharné, des responsabilités redoutables, des laboratoires à peine outillés, peu ou pas de salaire, décrira le docteur Frappier dans une allocution aux accents churchilliens prononcée en 1954. Déjà, il voyait plus grand. Le germe d'une grande idée. Une idée germe dans le petit laboratoire stérile de la rue Saint-Denis. Pour acheter de l'équipement de pointe et financer la recherche, Frappier entend mettre sur pied une institution spécialisée qui, outre l'enseignement, produit et vend aux instances de santé publique les fruits biomédicaux de ses travaux. Mais tout comme la souche du BCG, il faut une souche financière pour lancer la roue de ce cercle vertueux. Il rédige un rapport fouillé sur son projet. Soutenu par un petit groupe de personnalités influentes, il obtient l'approbation du premier ministre Maurice Duplessis, qui lui accorde une subvention de 75 000 $. L'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal est incorporé en avril 1938. Dès lors, c'était la marche vers l'infiniment petit, commente le chercheur aux larges vues dans son autobiographie. L'effort de guerre. Au déclenchement de la guerre en 1939, les fonds fédéraux commencent à affluer. Outre la production du vaccin BCG, l'Institut entreprend des recherches sur la gangrène gazeuse et sur un vaccin antitétanique. En collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, l'organisme produit 150 000 unités de sérum sanguin lyophilisé, prêtes à être administrées sur le champ de bataille. Personne ne prit de vacances avant 1946, relatera Armand Frappier. On travaillait les jours de congé et chaque soir. En 1941, l'Institut déménage au sein du nouveau campus universitaire en cours de construction sur les flancs du Mont-Royal. Les laboratoires ont été conçus par l'architecte des bâtiments du complexe, Ernest Cormier, lui-même. L'accès à plus de vastes locaux ne résout pas tous les problèmes. Poussés, sinon portés par le personnel, les génisses utilisées pour la recherche doivent gravir 240 marches pour atteindre le sixième étage. Heureusement, l'Institut avait acquis en 1939 une ferme à Laval-des-Rapides. Une écurie et de nouveaux bâtiments y seront construits au fil des ans, notamment un important laboratoire où sera produit un vaccin contre la poliomyélite. L'Institut s'installe définitivement sur son campus lavallois en 1963. Aujourd'hui nommé Centre Armand Frappier Santé-Biotechnologie, c'est un des 5 centres de recherche et d'enseignement de l'INRS, une constituante de l'Université du Québec. Le point final. Le docteur Armand Frappier a pris sa retraite en 1974 à l'âge de 70 ans. Il a mis le point final à la rédaction de ses mémoires le 13 décembre 1991 et, son œuvre accomplie, il s'est éteint 4 jours plus tard à 87 ans. En 1926, le taux des décès dus à la tuberculose s'établissait au Québec à 128 par 100 000 habitants. Au moment de sa mort, ce taux avait été réduit à 0,7. C'était Armand Frappier inocule la production vaccinale au Québec. Un texte de Marc Tison, paru le 8 novembre 2025 dans La Presse.